Voyage, dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que notre débat de ce soir est consacré aux législatives du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire. L'opposition part divisée. Quelles conséquences sur le processus? Mais d'abord, notre invité décryptage sur l'actualité du jour, l'investiture du nouveau président américain. On l'écoute.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Mathilde Lambert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ONG française Action contre la faim en Centrafrique. Votre ONG alerte sur les risques élevés d'insécurité alimentaire en République centrafricaine. Quelle est la situation humanitaire sur place?
Alors la situation sur place, c'est que les perspectives sont...
Voilà, ce n'est pas le bon élément, nous nous en excusons. Vous allez à présent écouter notre invité décryptage dans un instant. Sur l'investiture du président américain Joe Biden, qui a donc été investi aujourd'hui à Washington, la capitale fédérale, avec sa vice-présidente Kamala Harris. Et il est temps d'écouter donc notre invité. Maître Joseph Smallhover, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du comité national du Parti démocrate et représentant du Parti démocrate en France, le 46e président des États-Unis. Est démocrate, Joe Biden, investi à Washington ce mercredi au cours d'une cérémonie au Capitole. Comment les démocrates de France vivent-ils ce moment historique, même étant loin de la scène?
Avec énormément de soulagement, nous venons de passer 4 ans d'une présidence chaotique, corrompue, désastreuse. Et nous allons maintenant, avec le président Biden et le vice-président Harris, passer dans une époque plus calme et nous espérons plus heureuse pour les États-Unis et pour le monde entier.
L'ambiance de cette investiture est singulière. Pas de public en raison de la crise sanitaire, pas de président sortant. Le républicain Donald Trump a décidé de ne pas être présent. Comment est-ce que vous voyez tout cela, cette ambiance peu joyeuse dans laquelle se déroule cette cérémonie?
Singulière, c'est bien au moins qu'on puisse dire de cette situation. On a vu, même s'il n'y avait pas une foule au cause du Covid et de danger encore d'émeutes, nous avons vu aussi une situation où le pays est soulagé et que c'est une bonne chose que le président sortant a décidé de ne pas essayer de participer à l'investiture, car je pense qu'il aurait fait trouble fête s'il était là.
Est-ce que vous êtes d'accord, Maître Joseph Smallhover, avec ceux qui estiment que les 4 années de mandat de Joe Biden s'annoncent très difficiles en raison du lourd héritage? D'autres parlent même plutôt de nombreux boulets que lui laisse son prédécesseur.
Ça va être extrêmement difficile, bien entendu. Nous avons plus que 400 000 morts de Covid jusqu'à aujourd'hui, grâce à la très mauvaise gestion par le président sortant. Nous avons une économie qui, en fait, était ensuite... maintenant, avec 3 millions de personnes employées qu'au début de son mandat, il avait gâché les avances économiques que le président Obama et vice-président Biden avaient commencé à faire il y a 4 ans. Et nous avons aussi une situation étrangère, dans les affaires étrangères aussi, très difficile. Et ça va nécessiter énormément de travail et énormément de sagesse de la part de cette nouvelle administration. Le président Biden va commencer à signer des ordres exécutifs, des espèces d'arrêtés présidentiels pour changer plusieurs des politiques du président sortant.
Notamment la politique de lutte contre le coronavirus. On parle de port de masque qui sera obligatoire en public.
Dans les endroits où c'est régi par la loi fédérale, mais également nous allons retrouver, les États-Unis vont retrouver à nouveau l'accord de Paris sur le climat. Nous allons essayer de rentrer à nouveau dans l'accord avec l'Iran contre la prolifération nucléaire. et bien d'autres choses. Mais tout ça, c'est très compliqué et très difficile.
Mais la lutte contre le Covid-19, qui a déjà fait 400 000 morts, vous le disiez à l'instant, s'impose comme la priorité. Cette urgence nationale ne va-t-elle pas l'empêcher d'accorder une place importante, du moins dans les premières années, à la politique étrangère?
Je ne peux pas parler de la politique étrangère, mais ce sera une place extrêmement importante déjà dans la politique nationale. Et il a promis, le président Biden a promis des nouvelles aides pour l'économie de 1,9 000 milliards de dollars, y compris des chèques pour chaque Américain, y compris des aides aux entreprises, etc., pour pouvoir combattre à la fois cette chute spectaculaire de l'économie, ainsi que de faire en sorte que 100 millions d'Américains soient vaccinés d'ici 100 jours.
Renouer avec l'Afrique quasiment inexistante sous Trump pourrait-il faire partie de son agenda à court terme ?
Son secrétaire d'État est un professionnel de la diplomatie qui, et de la sécurité d'ailleurs. Il travaille depuis plus de 25 ans. Il connaît bien les francophones, il connaît très bien les pays francophones du monde. Je ne peux pas dire aujourd'hui si ça va exactement ce qu'ils auront comme projet pour l'Afrique, mais je peux dire que, à la différence du premier secrétaire d'État de Trump, Tony Blinken a une expérience très vaste déjà dans le domaine diplomatique et des affaires étrangères.
Mais certains critiques estiment que Donald Trump ne sera pas loin et pourrait ne pas laisser du répit à son successeur Joe Biden.
Il a déjà été mis en accusation par la Chambre des représentants et qu'il y aura une procédure de destitution et interdiction d'éligibilité à tout poste élu dans l'État fédéral. Donc il sera tout à fait possible que d'ici quelques jours, que Trump ne puisse plus parler.
Il n'est pas exclu qu'il soit arrêté ?
Oh, rien n'est exclu. Hein. Il n'a pas essayé de se pardonner lui-même. Il est accusé de plusieurs délits et crimes dans les différents États, et n'en parlant pas éventuellement même par l'État fédéral. Donc ce n'est pas à exclure, mais certainement il risque d'être exclu de la politique par le Congrès, et certainement peut-être par son propre parti.
Maître Joseph Smallhover, merci beaucoup.
Avec plaisir, madame.
Membre du comité national du Parti démocrate et représentant de ce parti en France. Merci à vous.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Le grand rendez-vous sur les législatives qui se profile en Côte d'Ivoire, ce sera le 6 mars prochain. L'opposition y part divisée. Quelles conséquences sur le processus et sur l'opposition elle-même? Nous avons trois invités en ligne. Moïse Diallo, conseiller spécial de la délégation RHDP en France. Monsieur Diallo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci d'être avec nous. Jean-Yves Esso-Essi, président des cadres dynamiques du PDCI-RDA, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci d'avoir cette autre invitation. Vous êtes par ailleurs candidat officiel du PDCI-RDA aux législatives à Dabou et par ailleurs inspecteur de membres du bureau politique de ce même parti. Honorable Kwaku Kra, vous êtes là, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Merci d'être avec nous. La ligne n'était pas très claire avec vous il y a un instant. Vous êtes vice-président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, faction Afingesson, chargé des questions électorales. Vous êtes à Abidjan. Je voudrais commencer avec vous, Monsieur Essi, puisqu'on parle de l'opposition. Pourquoi les partis d'opposition qui s'étaient mis ensemble pour protester contre la réélection de Alassane Ouattara ne s'accordent plus aujourd'hui autour des législatives? Qu'est-ce qui vous divise?
Alors, je n'ai pas bien saisi la question parce qu'il y a eu une coupure, mais...
Oui, allez-y, monsieur Essi.
Oui, je disais que je n'ai pas bien saisi la question, mais j'imagine que vous demandez pourquoi...
L'opposition va à cette élection en rang dispersé. Qu'est-ce qui vous a séparé? Qu'est-ce qui vous divise aujourd'hui alors qu'on avait senti comme une sorte d'entente lorsqu'il fallait dénoncer la réélection de Alassane Ouattara à la dernière présidentielle? Je ne sais pas, est-ce que M. Kwaku Krah m'entend?
Oui, je vous entends.
Monsieur Krah, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui au sein de l'opposition? Il y a sept partis qui se sont désolidarisés et qui ne sont plus membres de la coalition d'opposition.
Bien, merci. Ce qui fait problème, c'est d'abord vous. Parce que votre appréciation du Front populaire ivoirien fait problème. On ne peut pas parler d'un Front populaire ivoirien avec faction à signe de sang.
Ah, le problème, c'est nous, les journalistes.
Oui, mais bien sûr, un pays, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Un pays, c'est un pays, du point de vue de la légalité. Du point de vue de la légitimité, aujourd'hui, on ne peut pas évaluer les dissidents, là, on ne peut pas les évaluer. Depuis 2011, ils n'ont même pas participé à une élection. C'est Assimi Gessan qui est le président du parti du Front populaire ivoirien. Même si aujourd'hui Laurent Gbagbo revendique la présidence du Front populaire ivoirien, c'est la même chose.
Mais vous n'allez pas non plus nier, pardonnez-moi M. Krah, vous n'allez pas non plus nier qu'il y a une autre faction de AFPI, celle de Assouadou, ou la faction qu'on appelle Gbagbo Ourien. C'est la réalité.
Je suis d'accord avec vous, mais par extension, je veux que vous dites que l'opposition est une faction de la Côte d'Ivoire. Par opposition, M. Alassane Ouattara. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez me dire?
Bon, je pense que le débat ne porte pas sur la légitimité ou non de votre faction FPI. Ma question était celle de savoir pourquoi l'opposition va-t-elle diviser à ce scrutin?
Oh, il faut poser la question au PDCI. C'est le PDCI qui est l'auteur de la division. Et nous avons cru naïvement que le président Fekir voulait rassembler l'opposition. Malheureusement, le président Fekir voulait utiliser l'opposition. C'est ce que nous avons compris. Nous, comme nous ne voulons pas être utilisés par Fekir, c'est pour cela que nous nous sommes désolidarisés de cette manœuvre, cette manipulation.
Quand vous parlez du président Bédié, qui dites-vous voulait utiliser le FPI, et de manière claire, qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez reprocher au FPI de s'être rapproché de l'autre faction, dites fidèle à Laurent Gbagbo?
Pas du tout, puisque le président Bédié nous a appelé à un rassemblement. Et il a formé une coalition et nous l'avons considéré comme notre président de la coalition de l'opposition. Et progressivement, dans le cadre donc de la validation des candidatures, il se trouve qu'il a fait un accord avec, comme on appelle cela, la dissidence du Front populaire ivoirien. Et il pense que la coalition se résume à ces deux têtes. Selon eux, lui et M. Gbagbo sont les locomotives de l'opposition. Dans ces conditions, c'est pas sur cette base, nous sommes allés dans la coalition. Nous sommes allés dans la coalition de façon autonome avec la souveraineté de chaque parti.
Merci.
Et dès lors, où il se retrouve un accord bilatéral, ce n'est plus une coalition.
Dans laquelle vous vous retrouvez. Merci, M. Krah. Monsieur Essi, on vous a retrouvé, vous êtes là? Non, on me fait signe que monsieur, on n'a toujours pas monsieur ici, que nous avons perdu. Alors, monsieur Diallo, quel regard vous portez sur ce qu'on peut appeler cette cacophonie au sein de l'opposition à un mois et demi de l'élection législative dans votre pays?
Mais écoutez, madame, vous voyez, nous regardons cela avec un amusement vraiment qui est déplorable. Vous savez, on nous a dit que nous n'étions pas effectivement légitimes à faire ci ou à faire ça. Bon, nous avons prouvé de toute manière sur tout le territoire national que le parti RHDP est un parti effectivement structuré. C'est un parti qui a une vision pour ce pays. Nous l'avons prouvé. Nous sommes allés à des élections, vous avez vu vous-même. Les élections présidentielles, la population est sortie et nous avons gagné largement ces élections. Donc nous abordons effectivement cette phase qui est donc la phase des élections législatives avec beaucoup de sérénité parce que nous savons que nous sommes organisés sur le territoire national. Il y a eu un maillage qui a été fait sur le territoire national, mais vraiment inédit de la part de notre parti. Donc nous sommes très bien organisés et nous partons vraiment confiants parce que les populations qui ont qui sont allés massivement donc à ces urnes-là voter pour le président Alassane Ouattara, nous savons que ces populations effectivement ne vont pas se dédire et que dans la même file, avec la même motivation, certitude, la même volonté que ce pays-là change et que ce pays-là effectivement continue à connaître son progrès, et bien, ces populations vont sortir encore nombreuses pour aller voter effectivement nos candidats pour ces législatives.
Merci, donc, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, permettez, on a retrouvé Monsieur Essi, rassurez-vous, on reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Essi, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Vous n'avez pas suivi l'intervention de Monsieur Kwaku Kra tout à l'heure du FPI, mais il a affirmé clairement que le PDCI et son président, Henri Konan-Bédier, sont responsables de l'échec de l'unité de l'opposition aujourd'hui.
Oui, alors quelle est votre question ?
La question est de savoir qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, c'est ce qu'il a affirmé.
Ben écoutez, effectivement, je n'ai pas entendu cette intervention de M. Kwaku. Je ne pense pas que l'ensemble du FPI dise la même chose que lui, parce que jusqu'à présent, on n'a jamais parlé d'échec. Le président Bédier est un président qui, justement, a bravé toutes les tentatives de braquage électoral qui ont été faites par le pouvoir en place.
Il a accusé le président Bédier d'avoir utilisé le FPI à des fins personnelles et que si l'opposition ne va pas aux législatives en bloc et en rang serré, c'est la faute du PDCI.
Ce sont des affirmations un peu gratuites de la part de M. Kwaku. Je vous dirais simplement que nous avons subi un traumatisme national. Tout le monde, le monde entier et les Ivoiriens ont assisté à ce simulacre d'élection qui a eu le 31 octobre 2020. On n'a pas besoin de revenir dessus. Alors, face à ce genre de choses, il y a deux comportements à avoir. Deux comportements. Soit c'est de la résignation et on laisse tout faire. Soit alors on se bat pour un pouvoir législatif à récupérer. C'est la position de l'opposition actuellement. De se battre démocratiquement pour récupérer le maximum de sièges, tout en sachant que le pouvoir exécutif qui a été volé doit être combattu.
Allô, on a
démocratique. Et aussi ça. Non, c'est vrai que. Allô.
Oui, Monsieur Kra, je propose qu'on marque une pause, on va essayer de vous recontacter et on se retrouve, messieurs, dans un instant pour la suite de ce grand rendez-vous.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir des législatives qui se préparent en Côte d'Ivoire. Ce sera le 6 mars prochain avec trois invités. Moïse Diallo, conseiller spécial de la délégation RHDP, c'est le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Jean-Yves Esso-Essi, président des cadres dynamiques du PDCI-RDA de Henri Konan-Bédier. Et le député Kwaku Kra, vice-président du FPI, chargé des questions électorales. Je vous donne la parole, Monsieur Essi, pour terminer vos propos. Nous vous avons interrompu tout à l'heure. Vous répondiez aux accusations de Monsieur Kra, selon lesquelles le PDCI serait responsable de l'échec, et vous disiez que c'était des affirmations gratuites.
Oui.
Allô ? Allô, Monsieur Essi ? On ne va pas pouvoir entendre M. Essi. M. Kra, vous êtes là ?
Oui.
Alors, quels sont précisément les actes qui ont été posés par le PDCI par rapport à ces législatives qui ont conduit votre parti à cette prise de position ?
Bien, je respecte la position de M. Essi.
Ce que je veux lui dire, c'est que moi, je suis partie prenante aux différents dialogues. Dialogue avec le gouvernement, je participe. Dialogue avec l'opposition, je participe. Et avec l'opposition, dont le président est le président Bédier, nous avons cru naïvement que, effectivement, on devrait aller de façon consensuelle à ces élections. Malheureusement, ils ont fait des dilatoires. Nous sommes allés installer des comités de validation des candidatures. À chaque fois que nous venons donc au faire des réunions, ils trouvaient le prétexte pour dire qu'ils n'avaient pas des arguments pour qualifier leur candidat, pour soutenir leur candidature. Et tout le temps, jusqu'à ce que le délai de dépôt de candidature s'épuise. Et nous l'avons fait jusqu'à dimanche à minuit, pour que le PDCI nous dise, à travers son secrétaire exécutif, M. le professeur Nyamke Obi, que PDCI et EDS sont les locomotives à prendre ou à laisser, et que nous, nous étions des wagons. Et que les référents politiques, c'est Laurent Gbagbo et Bédier, et que c'est dans ce cadre-là qu'ils vont évoluer. Nous leur avons dit que bon, nous avons pris bonne note. Nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que nous avons pensé que c'était une coalition et que nous allons donc valider des candidatures et aller ensemble. Mais si c'est pour venir accompagner deux plateformes ou deux partis politiques, le PDCI et EDF, nous sommes vraiment au regret et je pense que nous allons prendre notre responsabilité.
Et vous allez présenter des candidats FPI?
Nous avons des candidats FPI sur l'ensemble du territoire. Actuellement, nous sommes en train de recueillir nos dossiers et Dieu merci, la commission électorale a repoussé le délai de 2 jours et je pense que le dilatoire que le PDCI a fait qui nous a retardé, nous allons le rattraper dans ces 2 jours.
Donc pour vous, monsieur Kra, le divorce est acté, il n'y a plus aucune autre possibilité d'envisager un rapprochement avec le PDCI, vos alliés d'hier.
Oh, il y a toujours des rapprochements, mais pour l'élection, si la date est maintenue, si la date de dépôt des dossiers est maintenue pour le 22, je ne crois pas qu'il y ait des possibilités avec le PDCI aujourd'hui.
Merci.
À moins que les élections soient reportées.
Merci beaucoup.
Parce que nous avons seulement 48 heures.
Alors, j'espère qu'on va. Oui, merci, Monsieur Kra. J'espère qu'on va pouvoir entendre plus longuement, Monsieur Essi. Vous êtes là, Monsieur Essi?
Oui, je suis là. À chaque fois que je m'exprime, ça se coupe, malheureusement.
Nous sommes désolés, les lignes ne passent pas avec Abidjan. Nous sommes donc obligés de passer par WhatsApp, qui n'est pas non plus très sûr. Donc, on en est désolé, Monsieur Essi. Alors, je vous laisse répondre à Monsieur Kra.
Alors, oui. Rapidement comme ça, si vous voulez, les fissures de l'opposition dont Monsieur Kra est en train de parler sont essentiellement issues de la mésentente entre les deux factions du FPI. C'est ce qui est malheureux. Vous savez, quand on parle de FPI, il faut reconnaître qu'il y a le FPI Assi et le FPI Gbagbo. Voilà. Nous sommes le PDCI, nous sommes unis, nous n'avons pas de division. Alors, nous nous adressons à des partis et nous faisons des arbitrages, nous nous entendons avec les différents partis d'opposition pour savoir la stratégie à adopter pour attaquer ces législatives. À l'intérieur de ce même FPI, il y a des discordances. Alors, malheureusement, Monsieur Ouattara joue sur ces discordances en accélérant les processus des législatives.
Le président Ouattara, vous voulez dire? C'est-à-dire, il est conscient, il n'ignore pas cette division au sein de l'opposition et maintient le calendrier pour empêcher l'opposition de pouvoir avoir le temps de discuter et se mettre ensemble. C'est ce que vous dites?
Exactement. C'est de l'intelligence machiavélique. C'est de l'intelligence machiavélique. Et c'est quelqu'un, le président Ouattara, alors je le respecte pour ça, qui a une très grande intelligence et il sait très bien qu'en mettant la pression sur les partis d'opposition actuellement, nous n'arriverons pas à nous organiser. Ou alors forcément, il y aura des
fissures. Excusez-moi, monsieur, il y a eu un dialogue qui a précédé. Il y a un dialogue qui a précédé le choix de la date par les autorités, et les conclusions de ce dialogue ont été signées par l'ensemble des partis politiques. Et quand vous décidiez, après ce dialogue, je vais dire l'opposition, d'aller à ce scrutin, à la date décidée par les autorités, n'aviez-vous pas conscience du délai très court ? Il n'y a que le COGEP qui a dénoncé cette date et qui estimait que le délai était très court. Allô ? Monsieur Diallo, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Est-ce que vous pouvez répondre peut-être à ce que M. Essi disait tout à l'heure, le temps qu'on le retrouve, que Alassane Ouattara a fait exprès d'accélérer le calendrier électoral pour mettre la pression sur l'opposition et l'empêcher d'avoir le temps de s'organiser et de s'entendre.
Madame, vous-même, quand vous les écoutez, vous constatez effectivement que l'opposition... en fait, décontenancés, ils n'ont vraiment rien à dire. Il faut effectivement reconnaître que c'est une opposition qui a toujours été dans la forfaiture et que cette opposition mal organisée, cette opposition qui n'a pas de projet sociétal, cette opposition qui n'a rien à proposer à sa population, effectivement, ne peut pas jouer. Donc, en fait, c'est une opposition qui aujourd'hui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Puisque elle-même n'est pas structurée, puisque elle-même ne sait pas vraiment comment aller à des élections. Vous voyez ce qui s'est passé à la présidentielle, on assiste encore, si vous voulez, à la même chose. C'est-à-dire que dès que l'opposition ne sait plus comment jouer, comment participer, comment compétir, eh bien, elle va trouver toutes sortes de moyens pour pouvoir expliquer effectivement ses difficultés. Aujourd'hui, nous nous sommes responsables. Nous ne sommes en tout cas pas responsables de leur dysfonctionnement. Ça, ce sont des choses qui appartiennent aux partis politiques.
Donc, mais il y a d'autres partis qui se sont retirés aussi en dénonçant la précipitation avec laquelle cette élection a été organisée. C'est le cas du RACI et le cas du COGEP aussi, oui, en estimant que les conditions pour une bonne élection ne sont pas réunies.
Mais parce qu'elles ne sont jamais prêtes, en fait. Ces formations ne sont jamais prêtes à aller à compétir à prendre part à aucune compétition. Donc forcément, elles vont trouver qu'il n'y a jamais le bon tempo, il n'y a jamais le bon timing. Donc en fait, voilà comment l'opposition en Côte d'Ivoire aujourd'hui joue.
Merci.
C'est de dire rien n'est bien organisé,
merci,
rien n'est fait à temps. Et donc, on ne peut pas effectivement suivre le calendrier d'une opposition qui ne sera jamais en fait prête.
Merci, M. Diallo.
Les présidentielles, la date était fixée depuis longtemps. Pour les législatives, la date était fixée depuis longtemps. Donc, allons-nous toujours attendre qu'une opposition...
Mais il y avait aussi des mésententes au niveau de la commission électorale. Il y avait plusieurs questions préalables politiques que posait l'opposition avant d'aller à ce scrutin.
Mais
d'où le dialogue qui a d'ailleurs précédé le choix de la date, M. Diallo.
Vous avez suivi, nous sommes allés dans un dialogue politique qui effectivement a suivi son cours. Nous sommes tombés d'accord qu'il fallait effectivement aller maintenant vers les élections. Donc nous avons décidé ensemble de cette date-là. Vous avez même vu, encore, ça il faut le reconnaître, que nous avons repoussé encore la date.
De dépôt de candidature de deux jours. Merci. On va laisser le temps à M. Essi, qu'on a une fois de plus retrouvé, de répondre, M. Essi. Allô? M. Essi, on me signale qu'il est en ligne, mais on ne l'entend pas.
Allô?
Oui, M. Essi, vous êtes là?
Oui, tout à fait.
Bon, je vous laisse le temps de répondre à la question que vous avez posée et les accusations de M. Diallo qui estime que c'est un prétexte pour vous parce que l'opposition n'est jamais prête et ne sera jamais assez prête pour aller à ces élections.
Mais écoutez, madame, l'opposition ne sera jamais prête pour aller à des élections qui sont...
Allô, M. Essi ? On patiente le temps de le retrouver. Monsieur Essi ?
C'est assez désagréable.
Je suis d'accord avec vous, monsieur Essi, nous en excusons. Allez-y, s'il vous plaît.
Non, non, je disais que l'opposition, de toute façon, ne sera jamais prête à aller à une forfaiture. Ça, c'est quelque chose de très clair. Ensuite, derrière, quand on a une forfaiture en face de nous, nous avons deux solutions. Soit c'est du boycott, on va pas aux élections, c'est la chaise vide, soit on y va malgré les mauvaises conditions d'organisation des élections. Alors, c'est dans cette...
Allô? Monsieur Kra? Est-ce que vous allez aux élections dans le même état d'esprit que M. Essi? Les conditions sont mauvaises. Oui, nous partons pas satisfaits des conditions de son organisation, mais nous y allons quand même.
Mais il faut dire à M. Diallo qu'ils ont une chance, ils ont une opposition civilisée. En leur temps, on sait les méthodes qu'ils ont utilisées pour contrarier Laurent Gbagbo en son temps. Jusqu'à utiliser la rébellion parce qu'il n'était pas satisfait des conditions électorales. Aujourd'hui, c'est pareil. Mais quand il affirme qu'ils ont la majorité et qu'ils vont remporter tout, mais il faut donner des bonnes conditions. Il faut être ouvert à des bonnes conditions. C'est ce qu'on leur demande.
Quelles sont les bonnes conditions que vous réclamez, M. Kra? Quelles sont les bonnes conditions qui manquent aujourd'hui pour l'organisation de bonnes élections législatives?
C'est une commission électorale impartiale, c'est l'utilisation rationnelle des moyens de l'État parce qu'ils utilisent l'argent des contribuables pour faire leur campagne. Ils arrivent à corrompre l'électorat, mais malgré ça, à la présidentielle, ils sont allés seuls. Et malgré qu'ils soient allés seuls, ils n'ont même pas pu dépasser 10%. Et nous leur avons demandé, bon, compte tenu du contexte tendu, repousser un peu de sorte qu'on puisse s'apprêter pour aller à ces élections. Ils ne veulent pas. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Ils pensent qu'en le faisant, nous allons faire du boycott. Mais cette fois-ci, nous ne ferons pas du boycott.
Mais vous partez aux élections, sachant qu'il y a un sérieux handicap et que la division de l'opposition pourrait avoir des conséquences importantes sur le score de l'opposition.
Oui, mais il vaut mieux aller dans ces conditions que de ne pas aller et puis ils vont aller seuls.
Merci beaucoup.
Il vaut mieux aller dans ces conditions que de ne pas y aller et le RHDP va aller seul. Et c'est ce qu'ils attendent.
Merci beaucoup.
Et par rapport à cela, nous avons décidé d'y aller. Quelles que soient les conditions à ce jour, nous allons y aller.
Merci. Est-ce que M. Essi est là, M. Essi?
Oui, alors, oui, je suis là.
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, non, mais j'ai perdu le fil parce que effectivement, à chaque fois que je m'exprime, ça se coupe. Mais grosso modo, ce que je pourrais dire, c'est que de toute façon, nous allons aux élections parce que nous n'avons pas le choix. Nous allons aux élections avec une CEI qui est encore déséquilibrée, avec un conseil constitutionnel.
Nous allons marquer une dernière pause et on va retrouver nos invités dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous entamons la dernière partie de votre émission dans des conditions techniques difficiles. Et avec nos invités, nous recevons ce soir Jean-Yves Esso-Essi, président des cadres dynamiques du PDC-RDA, que nous n'arrivons plus à joindre pour le moment. Mais Moïse Essi, la conseillère spéciale de la délégation RHDP France, et Kwaku Kra, vice-président du FPI faction Afingessence, sont avec nous. Je vais vous donner la parole, Monsieur Kra. Vous dénoncez les conditions d'organisation de cette élection, mais en même temps, vous souhaitez avoir une large majorité à l'Assemblée nationale à l'issue de cette élection législative. Quand je dis vous, c'est l'ensemble de l'opposition, même si vous y allez en rang dispersé. Comment remporter des scrutins dans de telles conditions? Est-ce que tout n'est pas joué d'avance, comme le disent certains partis qui ont décidé de ne pas y aller, comme le RACI ou le COGEP de Blé Goudé?
Bien, merci. A priori, on peut penser que tout est joué d'avance, mais il faut toujours compter sur le peuple et la démocratie. Et comme nous avons des représentants du bureau de vote, nous allons donc mettre l'accent sur nos représentants du bureau de vote, De sorte que les bulletins qui vont sortir de ces bureaux-là, pour pouvoir les utiliser, en tout cas pour contrarier les faux résultats qui pourraient sortir de cette compétition-là. En tout état de cause, nous faisons confiance au peuple de Côte d'Ivoire pour un changement. Si nous voulons nous camper sur les conditions électorales, avoir des conditions électorales idéales, nous allons toujours aller au boycott et ce n'est pas bon. Nous avons fait l'expérience des boycotts et aujourd'hui, quelles que soient les conditions, je pense qu'il faut que nous allons tenter nos chances.
Mais si vous-même, vous ne faites pas confiance aux conditions d'organisation de ce scrutin, pourquoi les électeurs, eux, devraient avoir confiance au processus? Cela peut justement entraîner une démobilisation des électeurs, non?
Oui, les quelques électeurs qui auront fait confiance, nous allons les partager. Parce que tous les électeurs ne vont pas faire confiance. Il y aura des électeurs qui vont faire confiance et qui vont chercher à faire des transformations. Et je pense que nous comptons sur cette qualité d'électeurs qui veulent qu'il y ait des changements.
Merci.
Et ils vont porter leur foi sur nous.
Merci. Mais M. Diallo, vous m'entendez?
Je vous entends, madame.
Alors, le COGEP a dénoncé un processus électoral précipité et biaisé à tous les niveaux. C'est ce que semble affirmer également M. Kra. Le débat sur la représentativité de l'opposition, l'équilibre de la commission électorale n'est pas clos, même après le dialogue. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rassurer les électeurs ivoiriens sur la crédibilité de ce processus?
Madame, je vais vous dire... Sérieusement, toutes les échéances qui avaient été annoncées ont été des échéances préparées. Nous avons convoqué donc l'opposition à s'exprimer pour la préparation des élections donc présidentielles. Nous avons réuni toute l'opposition plusieurs fois. Effectivement, ils ont tenté encore de boycotter les rencontres. C'est, je crois, la seule solution que l'opposition trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est on boycotte tout de façon à ce que nous n'avancions pas. Donc c'est pour cela que la convocation même de la CEI a pris beaucoup de retard, parce que chaque fois qu'ils ont été convoqués à une rencontre, eh bien, l'opposition, effectivement, ne répondait pas, elle était absente. Donc nous avons finalement conclu les choses avec elle, totalement satisfaite ou peu satisfaite, mais nous étions obligés de continuer effectivement à avancer parce que la Côte d'Ivoire ne sera pas prise en otage par les insuffisances, par les dysfonctionnements, par les revendications d'une opposition qui n'en sont pas vraiment des revendications. Parce que si
Merci.
Vous leur demandez pourquoi, et vous avez constaté, vous leur demandez qu'est-ce qui ne va pas, l'opposition est incapable de dire exactement ce qui ne va pas dans un processus électoral. Alors, on ne va pas être pris en otage par l'opposition. Quand nous organisons des tables pour pouvoir négocier, elles semblent être d'accord. Et quand on quitte ces tables de négociation, après l'opposition elle-même, divisée, revient encore sur des revendications qui sont... pas des revendications. Donc on
Merci
tourne
beaucoup.
En rond avec une opposition qui en fait est mal organisée et je crois qu'il y a un amateurisme qui est patent.
Merci Monsieur Diallo. Merci Monsieur Diallo. Je voudrais qu'on parle d'une
voilà.
question importante. Une des raisons pour lesquelles la date de clôture des candidatures a été reportée de 2 jours, c'est la question de la représentativité des femmes sur les listes. Monsieur Kra, la loi exige un minimum de 30% de femmes sur le total de listes de candidatures. Est-ce que cela a été réglé au sein de votre parti, le FPI?
Bien, merci. Sur le plan culturel, au niveau de notre parti, nos statuts règlements intérieurs depuis 1990 recommandaient 30%. Et en 2018, à l'occasion du dernier congrès, nous avons réaffirmé ce quota de 30%. Mieux, nous sommes passés à 50%.
D'accord. Pour les prochaines législatives, on n'a plus le temps. Est-ce que ça a été réglé? Est-ce que vos listes comportent 30% de femmes?
Ça ne peut pas être réglé aujourd'hui pour la simple raison que l'État lui-même, le gouvernement lui-même, n'a pas pris de précautions pour faciliter la participation des femmes. La promotion administrative qui devrait donc donner les moyens aux différentes femmes pour leur participation politique n'a pas été faite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes hésitent. nous avons des problèmes à avoir des femmes.
Merci beaucoup.
Les partis de l'opposition ne sont pas financés, vous comprenez que c'est un peu difficile.
Merci. Et chez vous, au RHDP, M. Diallo, est-ce que l'objectif est atteint?
Chez nous, l'objectif est atteint parce que on a aujourd'hui effectivement reçu les candidatures et c'est une préoccupation du président Alassane Ouattara, c'est une préoccupation du gouvernement avec à sa tête le premier ministre, c'est une préoccupation du DE Big Togo que d'analyser les candidatures et de voir effectivement la notion de la parité et de pouvoir respecter effectivement les profils, la correspondance entre les profils et puis les besoins exprimés, la popularité de nos candidats sur le terrain. C'est pour cela que nous sommes très à l'aise face à cette opposition qui, très mal organisée, mais ça, ce n'est pas la faute, ce n'est pas le fait du RHDP. Nous partons donc sur cette législative avec un maillage qui a été fait sur le terrain, avec donc une réponse aux aspirations de nos populations, avec des candidats, parce qu'on ne peut pas nommer tout le monde, tout le monde ne peut pas être candidat effectivement du RHDP. Certains candidats vont représenter le parti et nous n'empêchons même pas que certains d'entre nous aussi soient effectivement des candidats indépendants. C'est pour vous dire que nous sommes dans un esprit vraiment hautement démocratique et nous pensons effectivement que les populations qui ont validé le bilan du président Alassane Ouattara vont lui donner effectivement la
majorité à l'Assemblée nationale. Merci. En 30 secondes, Monsieur Kra, avec l'opposition divisée, quel est votre objectif? Quel score vous espérez?
C'est d'aller remporter le scrutin législatif, avoir le maximum d'élus et agir sur les intérêts des Ivoiriens.
Et vous êtes convaincu d'y arriver?
À la vie. Allô?
Et vous y croyez?
Ben, nous y croyons. C'est là que nous participons. Et nous pensons que nous allons remporter le maximum de sièges pour exercer notre rôle au niveau de l'Assemblée nationale, le rôle de contrôle de l'action gouvernementale.
Merci.
Que nous ayons des véritables lois.
Merci beaucoup, honorable Kwaku Kra, vice-président du FPI chargé des questions électorales, FPI Pascal Afinguessan. Vous étiez en ligne d'Abidjan. Merci à Moïse Diallo, conseiller spécial de la délégation RHDP en France. Et nous remercions également Jean-Yves Esso, ici président des cadres dynamiques du PDCI RDA, que nous n'avons pas beaucoup entendu dans cette émission à cause de la qualité de la ligne. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de Grand Rendez-vous sur Africa Radio.